Audiolib présente In Violentia Veritas de Catherine Girard, lu par Catherine Girard. Le destin prend son homme au berceau. Georges Arnaud, Le salaire de la peur. Soumets-toi donc, misérable et tremblante créature, et garde-toi de vouloir, ce n'est point ton affaire. Fiodor Dostoïevski, Crime et châtiment. Ferme un peu ta gueule, tu veux, répondit le mauvais larron. On s'entend plus causer. Georges Arnaud, Le voyage du mauvais larron. Le divan. Allongée sur le divan, face à la fenêtre, j'attends les questions d'Olivier, assis derrière moi dans le fauteuil du roi son père. Nous sommes en quatrième dans le même lycée, et il me tanne depuis des semaines pour une séance de psychanalyse dans le cabinet de papa, qui ne travaille pas le mercredi, avec lui dans le rôle du psy, moi dans celui de l'analysé. Je n'ai pas bien compris pourquoi, mais il a tant insisté que j'ai fini par céder. Ferveurs adolescentes obligent, il commence par une série de questions sur ce que m'évoque l'image d'une clé entrant dans une serrure, un pistolet de pompe à essence dans le réservoir d'une voiture, un ver de terre creusant son orifice dans la chair juteuse d'une pomme. Un grand éclat de rire vient saccager le champ allégorique de ses fantasmes fornicateurs. Olivier reprend son sérieux. D'une voix de basse qu'il s'efforce de rendre plus grave encore, il enchaîne sur mon arbre familial. Qui étaient mes grands-parents? Leur nom? Leur profession? Étaient-ils toujours en vie? Et, s'ils ne l'étaient pas, de quoi étaient-ils morts? Du côté de maman, une grand-mère bien vivante et aviatrice, Marguerite, que je n'avais jamais rencontrée, ma mère ayant la particularité d'être brouillée avec toutes les femmes des générations qui encadraient la sienne. Un grand-père ingénieur, Émile, qui avait inventé la radio, du moins d'après sa fille, dont je saisirai plus tard, l'existence d'un certain Marconi n'y ayant pas suffi, l'inclination vertigineuse pour le mensonge ornemental. La réalité avait de quoi vexer une petite fille. Joli garçon, son père avait simplement fait un bon mariage, vécu au crochet de son épouse, puis, après l'avoir ruiné, à ceux de ses maîtresses. Je ne le connaissais qu'au travers d'histoires de famille et par certains atavismes flagrants, parmi lesquels, outre cette tendance à la fabulation qui frisait la mythomanie, un insatiable orgueil et une vanité qui leur aurait fait embrasser n'importe quelle cause, pourvu que celle-ci leur conférât une certaine distinction, accessoirement aussi servit leurs intérêts. Les mensonges de ma mère avaient le mérite d'être narrés avec talent. De longues mains fines, gesticulantes, frôlaient ces mots du bout des doigts qui suspendaient au vol votre incrédulité. Elles fixaient sur les vôtres de grands yeux verts qui vous faisaient oublier jusqu'à l'ombre de votre dernier doute. Le tour était joué, envoûté vous étiez. Je ne savais rien de plus sur Émile, sinon que son décès était survenu en 1968, d'une rupture d'anévrisme, à R-sur-Adour, où il vivait aux dépens de sa dernière maîtresse. Il n'avait laissé d'héritage que celui que sa fille inventa afin de pouvoir prétendre y avoir renoncé et rattraper ainsi l'immense écart de fortune entre celle qu'elle avait montée de toutes pièces et celle que mon père avait dilapidée. Ma grand-mère paternelle était celle dont la mort renfermait le moins de mystère. Mon père, au contraire de sa fabulatrice d'épouse, n'était pas menteur, il était romancier, ce qui lui permettait de canaliser ses mensonges dans ses œuvres. Valentine, professeure de lettres et par ailleurs camarade de Lénine, était morte d'une tuberculose en 1926, enceinte et en sanatorium. Quant à mon grand-père paternel, à part qu'il était historien et plus ou moins aristocrate, je m'aperçus que je n'en savais rien. Je fouillais ma mémoire jusqu'à ce qu'en émergeât un lointain souvenir. J'étais en voiture avec ma mère, assez grande pour être assise à la place du mort, quand je lui avais posé la question. J'avais bien senti comme un silence qui ne trouvait pas ses mots avant de l'entendre